radioville.ch.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Un peu dur quand même, parce que quand on va aux urgences, en général, c'est plutôt qu'on en a très, qu'on en a beaucoup besoin.
L'angoisse n'est pas forcément la bonne réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la nature?
Je pense qu'il y a d'autres méthodes et puis qu'il faut juste les développer.
Si on doit parler du nucléaire, le nucléaire, ça rendrait le pays très indépendant.
En tout cas, il faudrait essayer de trouver une manière de mettre plus en avant, de plus protéger du coup les productions locales.
C'est le jour de récap. Bonjour Jean-Marc.
Et oui Valérie, le jour de récap, absolument. Et alors, on n'a pas fait exprès, mais on a deux taxes. Une sur les vins étrangers, une sur les urgences ou l'accès aux urgences. Et puis, on a deux thématiques qui étaient un peu en lien avec l'environnement, puisqu'il y avait l'éco-anxiété et pour ou contre le retour du nucléaire. Donc, on va en parler. Vous avez été très nombreux et nombreux à réagir cette semaine. On a beaucoup de messages qu'on n'a pas pu diffuser en direct. Mais si vous voulez encore apporter votre regard sur l'une des thématiques, c'est toujours le numéro de téléphone 079 844 0077.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Et on va parler des urgences et de cette proposition faite par les chambres, je ne sais plus très bien si c'est le Conseil fédéral ou les chambres, mais en tout cas une proposition de taxer les personnes qui vont aux urgences. Alors, c'était clair au départ, non à 90%. Puis pendant l'émission, ça a passé à 80%, puis à 70%. Quand même 70% de gens qui sont contre. Alors vous me direz, les arguments des pour, eh bien c'est le seul moyen de désengorger les urgences, parce que beaucoup de celles et de ceux qui se sont prononcés pour cette taxe pensent que beaucoup de gens vont juste pour un petit bobo et qu'il n'y a aucune raison d'être d'y aller. Par contre, pour ceux qui sont contre cette taxe, eh bien, on met en perspective le fait que la problématique vient du manque aussi de médecins de famille. C'est-à-dire que normalement, si le médecin de famille préconise d'aller aux urgences, il n'y a pas besoin de payer la taxe. Mais comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille ou que les médecins de famille ne sont pas disponibles, mais j'en dis pas plus parce que vous allez les entendre, ces remarques dans les messages qu'on va écouter. Voici le premier.
Je ne vous cache pas que je trouve ça scandaleux et qu'il faudrait peut-être commencer à changer de regard, que nos autorités fédérales, cantonales et communales commencent à prendre en considération un peu plus les médecines, ce qu'on appelle holistiques ou alternatives, qui peuvent apporter beaucoup, qui pourraient diminuer les coûts et de reprendre le sujet sous un autre angle plutôt que de commencer à mettre des taxes partout, parce qu'il faut arrêter d'étouffer les familles et j'en passe, et les personnes, les seniors ou comme ça. Il n'y a pas que payer, il y a aussi être humain dans la vie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui manque énormément sur tous les fronts.
Quand on parle de taxer les personnes qui vont aux urgences, on sent, Laure Zibelmann, que dès qu'on entre dans le domaine de la santé, c'est compliqué, ça parle à la personne en quelque sorte.
Ben, c'est un problème très intime, c'est quelque chose qui potentiellement peut tous nous toucher. J'entends bien ce que dit cette dame, effectivement. On a déjà le sentiment, et c'est un argument de ceux qui sont contre cette taxe, qu'on paye déjà beaucoup avec l'assurance maladie notamment. Pourquoi encore surtaxer avec cette taxe à 50 francs. Et puis je note aussi que votre invité du jour expliquait que finalement cette impression de réel engorgement, en tout cas de gens qui se rendent aux urgences pour un oui ou pour un non, c'est pas si vrai que ça. Lui-même vous le confiait, c'est un ressenti, parce que lorsqu'on va aux urgences, on est toujours évidemment un peu pressé, mais il est évident que les équipes ne sont pas extensibles de manière illimitée, que s'occuper de personnes qui viennent aux urgences, ça prend du temps, et que les cas les plus graves passent avant les plus petits bobos. Et ce sentiment d'attente dans les salles d'urgence donne l'impression que effectivement, il y a trop de monde, que trop de monde s'y rend pour des raisons qui sont bénignes, alors que visiblement ça n'est pas le cas en réalité.
Oui, Hugli qui était notre invité et qui est le patron des urgences a écouté les deux messages qu'on va entendre maintenant avec beaucoup d'intérêt.
On n'est pas bien, on appelle son médecin traitant, on va avoir un rendez-vous, il est complet, il nous dit d'aller aux urgences. On a une maladie chronique, dès que ces symptômes apparaissent, rendez-vous aux urgences. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aux urgences et on se fait taxer. Le truc dans l'histoire, où on peut faire des économies, c'est les médicaments. On a les médicaments, les mêmes que partout, mais qui sont parmi les plus chers au monde. C'est un peu se foutre la gueule du monde.
Les médecins généralistes et également les spécialistes sont bornés sur la question du rendez-vous. Si on a quelque chose de grave, qu'on est malade, qu'on a besoin d'aller chez le médecin, ils disent tous d'aller aux urgences. On n'a pas d'issue. Ils disent tous d'aller aux urgences. Personne ne prend son rendez-vous. Alors, quelle solution ?
On va en reparler tout à l'heure. Au 079 844 0077, vos premiers messages sont arrivés. N'hésitez pas à utiliser notre numéro de téléphone ou de WhatsApp.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Hougier. La parole est à vous au 079 844 0077. Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Hougier.
Parce qu'on aime répéter le vendredi, on récapitule et on répète.
Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'on est payé au nombre de fois qu'on est cité, Valérie. Vous ne l'avez pas remarqué, donc il faut qu'on soit cité plein de fois pour avoir quand même un petit bit de fil. Voilà, c'est ça.
J'aime cette naïveté encore chez Jean-Marc Richard.
Alors au 079 844 0077, on a reçu plein de messages. On en a un qui vient d'arriver, qui va un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour beaucoup de gens, en fait, il y a exagération. On va là, aux urgences, pour un rhume ou pour une rage de dents, je cite. Mais alors, pour des raisons sérieuses, pas de taxes, parce qu'on paye déjà beaucoup de primes maladie. Et puis, les premiers touchés seraient les plus précaires. On écoute un des messages qu'on a reçus dans l'émission.
Oui, c'est Corinne. Je travaille aussi dans un hôpital. Moi, je pense que le problème, il n'est pas pris dans le bon sens. On devrait faire en sorte que cette taxe de 50 francs soit remboursée quand il s'agissait vraiment d'une urgence, ça veut dire d'un prix 1 ou 2, enfin, se comprendront ceux qui sont dans le médical. Et toutes les personnes qui sont venues inutilement aux urgences, en fait, une consultation qui aurait pu attendre d'être vue par un médecin de famille, ceux-ci, on ne leur rembourse pas les 50 francs.
Inutilement, c'est ce terme. Qu'est-ce qui définit ? C'est ce que disait Olivier Hugli, hein, qui est donc le patron des urgences du CHUV. Il disait, mais utile, inutile, c'est compliqué à savoir. Et puis il y a tous les gens qui sont inquiets, qui angoissent aussi. Il y a aussi les hypochondriaques, ça existe aussi. Oui, puis, c'est une réalité, quoi.
Mais qui peut dire, en effet, ce qui est utile, inutile en matière de santé et surtout le quidam ? Moi, ce qui me pose un vrai problème avec cette taxe, c'est que j'ai l'impression que c'est plus une taxe punitive qu'autre chose. Mmh. Pour quel résultat, finalement ? Que les gens les plus défavorisés ne se rendront plus aux urgences en cas de vrai pépin, parce qu'ils auront 50 francs à devoir débourser, ce qui va peut-être accroître la précarité de leur santé, les rendre encore un peu plus malades. Enfin, on marche sur la tête, à mon avis. Je trouve ça vraiment détestable.
Ah, vous êtes fort pour marcher sur la tête. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais quoique chauve, on peut rouler sur la tête.
On peut rouler sur la tête, effectivement. Oui.
Ouais, c'est aussi, il faut regarder Carec, parce que vous avez quand même deux chauves sur le même plateau, c'est pas ça. Mal, ça donne pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, ouais, Valérie?
On va baptiser cette émission Chauve qui peut.
Voilà, et attention aux images détournées. Sarah est effondrée, notre assistante de production. C'est comme ça, c'est le récap de la semaine jusqu'à 13h.
Et un message. Alors celui-ci est court, mais il dit beaucoup de choses en très peu de temps.
En fin de compte, on a des politiques qui sont là pour trouver ce qu'il y a de mieux pour nous. Et puis, franchement, on est dans un des meilleurs systèmes de santé au monde. Il suffit de regarder tout autour de nous. On n'a pas vraiment à se plaindre. Belle journée!
Et un autre, pas très long non plus, mais qui ne dit pas tout à fait la même chose.
Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle France. Je suis une ancienne infirmière. Je trouve absolument scandaleux l'histoire des 50 francs. Effectivement, ça va prétériter des personnes qui sont déjà dans le besoin. Et de plus, je trouve qu'on économise de plus en plus sur le métier de la santé. Pourquoi la politique est de bloquer les médecins de famille, et de nouveau, ça retombe sur l'individu, et je trouve ça juste scandaleux.
Ça pourrait être la conclusion, c'est-à-dire que peut-être qu'on aurait dû ou on pourrait mettre la focale plutôt sur qu'est-ce qu'il faut faire pour solidifier les métiers de la santé.
Les encourager et effectivement porter les métiers de la santé. On le sait, les infirmières, enfin le personnel hospitalier rame souvent, tant avec les moyens qu'avec tout simplement leur salaire. Et c'est peut-être là aussi qu'il faudrait mettre des forces plutôt que d'aller punir ou tenter de punir celles et ceux qui auraient besoin de consulter les urgences. Je trouve ça, je pense que ça serait plus équilibré, on va dire, et plus judicieux.
Et donc, le résultat ne l'était pas équilibré, puisque c'était 70% au final contre cette taxe. pour les urgences et 30% pour. Voilà pour le premier thème que nous avons récapitulé avec de nombreux messages. Je voudrais profiter de remercier celles et ceux qui nous envoient des messages, vocaux en particulier, mais les autres aussi, hein, vocaux, parce que ben, parfois on a tellement de messages qu'on n'arrive pas à les diffuser dans l'émission. Et ça tombe bien parce qu'il y a le récap de la semaine. Et là, on a diffusé tous les messages que vous nous avez envoyés. Donc merci infiniment, Valérie.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Et le récap de la semaine, c'est maintenant.
Valérie, absolument. Avec cette question, éco-anxiété, maladie du siècle. Alors, je dois dire, et c'est très clair, on n'a pas répondu à cette question. Mais par contre, on a beaucoup parlé d'éco-anxiété. On a aussi parlé pas mal de peur généralisée, semble-t-il, ou dont lequel les infos et le monde qui nous entoure sont responsables. On a parlé d'une civilisation qui arrive au terme, qui provoque évidemment de l'anxiété. Mais beaucoup ont reconnu qu'il y avait de l'éco-anxiété et personne n'a vraiment dit si cette éco-anxiété, c'était un truc inventé, c'était une mode, si c'était une maladie du siècle. Je vous propose d'écouter un premier message parce que ça a quand même beaucoup inspiré l'éco-anxiété.
C'est quand même relativement en train de se dégrader, la santé, l'éducation. On voit les conflits armés se rapprocher de plus en plus. Tout ça mis ensemble, ça fait des facteurs en plus qui viennent taper sur le moral des gens. Et j'en fais partie, hein, je le cache pas. Et du coup, je pense que tout s'accumuler, on arrive à des émotions incontrôlées, incontrôlables et qui prennent le dessus. C'est donc les anxiétés qui se mettent en couche sur couche et puis qui font déborder le vase. Hein.
C'est ce qui ressortait de la plupart des messages et les témoignages. J'avais pas mal de témoignages de gens qui disaient c'est pas la seule anxiété que j'ai ou que j'avais, c'est pas la seule angoisse que j'avais, mais il y a des couches, comme le dit très bien cet auditeur. Alors donc, on n'a pas répondu si c'était la maladie du siècle, mais les angoisses sont quand même générées par tout ce qui se passe ici.
Ben, il y a un effet millefeuille, hein, oui. Indiscutable, entre, comme le disait ce monsieur, les guerres qui sont à nos portes, les problèmes économiques qui en découlent, on le voit de plus en plus tous les jours, même chez nous, et puis ensuite, effectivement, tous les problèmes liés à la planète, nature et l'avenir de cette planète, tout ça génère un espèce de mal-être contre lequel il est peut-être difficile de se battre. Après, peut-être faut-il essayer de relativiser et de se dire où est-ce que je peux me rassurer, où est-ce que je peux me prendre en main et que puis-je faire, moi, à titre personnel, dans ce contexte-là pour, par exemple, effectivement, rassurer mon éco-anxiété. Voilà, je pense qu'il faut y aller vraiment avec parcimonie, couche par couche.
Eh bien, nous allons continuer à y aller couche par couche avec un deuxième message.
À tous ces gens qui sont angoissés pour avoir des enfants, un enfant, c'est le plus beau cadeau du monde. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on se tourne vers Dieu, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Et ça, on n'en parle jamais. Et vous allez voir que toute la vie va changer. Bon courage à tous et merci de tout.
Une façon peut-être de lutter contre l'éco-anxiété, effectivement.
La foi, pourquoi pas ? Oui, oui, absolument. On connaît tous, je pense, dans notre environnement respectif, des gens qui se tournent vers la foi. Pourquoi pas ? Oui, mais moi je pense que une façon réelle, vraiment, de pouvoir se rassurer, si tant est qu'il y en ait besoin, c'est d'être proactif. C'est à sa hauteur, si on peut, si on a le temps, si on a aussi peut-être les moyens de se rassurer, en œuvrant, je ne sais pas, par exemple, moi je vois des jeunes en Lavaux qui vont l'été ramasser des déchets de plastique, par exemple, sur les plages, sur le bord du lac. Enfin, vous voyez, cette idée, en réalité, d'être un peu des soldats de la terre, entre guillemets, des soldats verts, peut-être amener une réflexion et puis un mieux-être.
Avec cette question, évidemment, qui est revenue aussi dans la discussion, que sont-ils devenus, celles et ceux qui sont descendus dans la rue à un moment donné pour lutter contre le réchauffement climatique ? Est-ce que le fait qu'on n'a pas vraiment répondu à leurs attentes, ça n'a pas cassé quelque chose, quoi ? Ça, c'est une autre question. On l'aborde dans quelques instants, on va écouter un message.
éco-anxiété, je peux la comprendre, avec l'avalanche d'informations très souvent erronées qu'on nous balance depuis 30 ans, en commençant par la couche d'ozone, la fonte des glaces, la crise des océans, etc., etc. Pour que ces gens puissent être soignés, peut-être, il suffirait peut-être déjà aussi, entre autres, de les rassurer en leur donnant connaissance de la vérité. Ah, celle que les médias mainstream nous envoient tout le temps dans les dents, mais la vérité sur les choses exactes. Un simple exemple, je ne vais pas aller plus loin, un simple exemple, le CO2, qui semble-t-il est responsable du réchauffement climatique, représente 4 pour 1000 de l'atmosphère terrestre.
Ça, c'est... Il y a eu très peu de messages qui allaient dans ce sens. Je trouvais intéressant qu'on en parle parce que c'est un message clairement où la personne exprime son climato-sceptisme. Et ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui sont descendus dans la rue, puis il y en a qui ont mis de l'énergie pour dire non, il n'y a pas de réchauffement. Donc on est encore dans ce débat-là. Hein.
C'est un discours qu'on entend régulièrement, qu'on reçoit par message régulièrement au matin.ch lorsqu'on... traite de sujets liés au climat, au changement climatique. Oui, il y a du climato-sceptisme. Il est difficile à combattre, hein. Difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne veut pas entendre les choses qu'effectivement, oui, il y a un changement. On le constate tous les jours. C'est compliqué. Ce monsieur parlait de beaucoup d'informations finalement par jour. En réalité, c'est peut-être aussi cette avalanche aujourd'hui d'informations que nous produisons tous, hein, les médias, et cette façon de consommer l'information aujourd'hui qui est beaucoup plus prégnante qu'auparavant, qui crée peut-être cet effet cumulatif.
079 844 0077, vous pouvez continuer à donner votre sentiment sur l'éco-anxiété et les autres sujets en récapitulatif cette semaine.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Et le récap de la semaine avec Laurent Siebenmann, directeur du matin.ch, rédacteur en chef.
Oui, voilà, de toute façon c'est le chef, quoi, on dit ça comme ça.
Ouais,
voilà.
Le boss.
Le boss.
Ah bah,
qu'est-ce qu'on dit ?
Celui qui chef.
Celui qui chef, oui, c'est ça. Alors, mesdames, messieurs, nous allons revenir sur une autre taxe, mais celle-ci pour sauver nos vigneronnes et vignerons, notre viticulture. Faut-il ou non taxer les vins étrangers ? La question était posée et ça s'est, comment dire, résolu avec un 50-50. En conclusion, pas mal de gens considèrent qu'on doit tout faire pour sauver la viticulture, les vins de chez nous, mais peut-être pas avec une taxe sur les vins étrangers, avec d'autres choses, avec d'autres façons de faire. Néanmoins, on sentait que si c'est pas possible, eh ben c'est ce qu'il faut faire, en gros. Alors, premier message qu'on va écouter à propos de cette taxe sur les vins étrangers, pour ou contre ?
Les vins suisses, on n'en trouve pas beaucoup dans les restaurants, ce que je trouve dommage. Je trouve qu'il devrait y avoir une promotion des vins suisses dans tous les restaurants de Suisse, déjà. Et par rapport à l'étranger, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup à l'étranger, mais si on les trouvait dans les restaurants chez nous, je pense qu'il y a des vins de qualité qui sont juste exceptionnels. Effectivement, faire une promotion à l'étranger, nous, quand on va à l'étranger, on apporte toujours nos vins suisses. Et pour les gens qui les consomment, c'est toujours une découverte. Et ils apprécient toujours énormément nos vins.
On sent que taxe, ça gêne, mais qu'il faut quand même trouver une solution, quoi, pour aider.
Mettre en avant les vins suisses. J'ai pas le sentiment que les vins suisses soient si peu représentés sur les cartes des restaurants. Je crois que le problème est peut-être un peu différent. C'est vrai qu'on reproche souvent aux vins suisses d'être un peu plus chers que les vins étrangers. Alors, il y a peut-être un travail sur les prix à faire, mais il faut consommer local, effectivement. Il y a des très bons vins, par exemple, en Lavaux. Cuit, c'est fantastique. Il y a des vins blancs extraordinaires. Je dis ça comme ça, on doit pas parler d'alcool à l'antenne, bien sûr.
Non, non, mais donc c'est bon, moi je vous écoute, hein, tous les deux, évidemment. Valérie donnera peut-être son avis tout à l'heure. On va écouter un autre message sur taxer ou non les vins étrangers.
Bonjour, eh bien moi je trouve bien malheureux qu'on perde nos valeurs au niveau du vin suisse. C'est sûr, à mon avis en tout cas, le vin suisse est tellement bon et comme vous dites, c'est tellement convivial quand on est avec des amis de boire un bon verre de vin. Alors pour qu'il soit bon, bah, autant, ma foi, c'est dur à dire, mais payer le prix. On a un tel choix, une telle variation entre le blanc, le rouge, le rosé et des produits de tellement bonne qualité. On peut le boire avec modération en effet. Oui, je suis pour la taxe que chez nous, on doit payer une taxe sur le vin étranger.
pas si c'est la même personne, mais un petit problème.
Ça semblerait pas sur le son.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, quand je fais un micro-trottoir, j'accompagne la personne. Parce qu'elle est pressée. Donc elle parle et on est rentré dans un parking avec la personne. Voilà. Elle a dit oui, je veux bien vous répondre, mais il faut qu'on avance. Donc on avance. Donc évidemment, vous avez tout à fait le même son entre l'extérieur et le parking. Voilà, comme ça, ça explique tout.
Est-ce que vous pourrez mentionner aussi, à part ça, les images cachées de Jean-Marc Richard rentrant dans le parking avec son micro pour le vous d'abord juste.
Parking où on diffuse LFM.
Ah d'accord, donc c'est au centre de Lausanne, si on peut oui. le souffler, c'est, oui, ça. C'est ça. Donc la dame qui parlait de la convivialité, d'un moment convivial avec le vin suisse, si possible, il y a quand même, souvenez-vous de ce fameux slogan, sans alcool, la fête est plus folle. Et je crois que c'est aussi le moment de le signaler ici.
Oui.
Pour faire une moyenne.
Alors, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il faut moins consommer ou pas consommer, mais il y avait quand même pas mal de gens qui avaient un avis sur le vin tout en ne consommant pas, hein, il faut le préciser. Et
puis, il faut dire aussi que les habitudes ont beaucoup changé depuis la période Covid, où l'on en a beaucoup moins fréquenté, et pour cause les restaurants, et qu'aujourd'hui, et pas que chez les jeunes, chez les adultes de notre âge aussi, la consommation de vin a changé, a considérablement baissé. Il y a une espèce de prise de conscience, peut-être aussi un changement d'habitude qui provoque cette impression que le vin suisse, enfin c'est pas qu'une impression, se vend peut-être moins ou est moins mis en avant.
Allez, on conclut sur le vin et taxer les vins étrangers avec un petit aperçu de quand tu vas dans la rue mais que tu rentres pas dans le parking.
Ce serait une bonne chose parce que comme ça au moins ça encouragerait de consommer des produits locaux.
Avec les problèmes qu'il y a eu de tempête, je pense que chacun déjà s'occupe un peu de son pays et que ben, nos vins priment.
Donc on ferme pour tous les fromages et pour tout, puis on s'occupe de nous-mêmes.
En tout cas, il faudrait essayer de trouver une manière de mettre plus en avant, de plus protéger du coup les productions locales. En bloquant les produits d'ailleurs, peut-être qu'on va bloquer les produits d'ici, justement, à l'étranger.
Je pense qu'à un moment donné, on sera peut-être obligé de passer par le porte-monnaie pour faire comprendre que c'est important de consommer local.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
C'est le récap de la semaine, mais si vous regardez Caractra, vous voyez les images avec des discussions passionnées. C'est-à-dire que Jean-Marc et Laurence Ibenman sont en train de préparer le « C'était mieux avant ». On l'évoquera lundi.
De lundi, absolument. Parce qu'on discutait un petit peu de la radio, on discutait de Lausanne, on discutait de la Dolce Vita.
De très, très proches souvenirs.
Ouais, de très proches souvenirs, effectivement. « C'était mieux avant », ce sera le thème de lundi. Vous pouvez déjà utiliser notre répondeur 079 844 0077 pour nous dire si vous pensez que c'était mieux ou pas avant. Alors, aucun rapport avec le thème, le dernier thème de la semaine, celui du pour ou contre le retour du nucléaire. Le contexte est clair, il y a eu des votations depuis nombreuses années qui disent franchement et sans hésiter, on ne veut plus de nouvelles centrales, on ne veut pas continuer avec le nucléaire, on va finir le cycle et on passera à autre chose. Et puis voilà que du côté de certains politiciens ou de certaines politiciennes, on veut y revenir. Et c'était 50-50 au début de l'émission et ça s'est terminé par un 60-40, c'est-à-dire 60% de gens pensent que oui, on peut revenir au nucléaire et 40% pensent que non. Alors, pour ceux qui sont contre, c'était clair, on doit privilégier d'autres sources. On a déjà voté, il y a encore des dangers clairs avec les déchets nucléaires. Pour ceux qui étaient pour, ben, en gros, on n'a plus le choix. Sinon, on rouvre les mines de charbon, je cite, et puis il y avait toute la dimension climato-sceptique, mais c'était surtout ça. Premier message qu'on écoute, un message que nous avons reçu pendant l'émission.
C'est une chaîne, pour moi, du début, de qu'est-ce qui se passe en termes de changement climatique, de réserves naturelles, jusqu'à la fabrication de l'électricité. Il n'y aura jamais une solution parfaite. Si à un moment donné, le nucléaire doit rester dans la course, effectivement, avec des moyens qui évoluent, qui pourraient prendre le relais dans les moments où il y a peut-être on est à court d'électricité, peut-être des moyens complémentaires, un peu comme un baromètre, où voilà, là, il n'y a pas assez, donc il faut enclencher quelque chose. Mais voilà, je ne me rends pas compte, effectivement, des coûts, des entretiens que ça représenterait. Mais en tout cas, privilégier l'électricité, la source naturelle, la nôtre, notre indépendance au niveau-là, ça n'empêche pas qu'on pourrait en donner à d'autres si on en a trop à un moment donné.
Mention spéciale pour les messages si vous le faites en auto. Ok, mais alors rapprochez-vous au moins soit du micro, soit arrêtez la voiture. Ah, c'est en même temps, ça marche pas.
Alors vous l'avez dit l'autre jour, c'est pas une voiture électrique, hein,
non,
ça c'est sûr.
Non,
ça, non du tout. Alors, mais effectivement, puis le moteur, il faisait pas mal de bruit. Si j'étais vous, je contrôlerais l'huile, madame. Non. Elle dit quand même une chose essentielle. Hein. Être autonome. Quitte à en vendre à d'autres, être autonome. C'est ce qui ressortait. Hein. La peur, c'est qu'on n'y arrive pas sans le nucléaire.
C'est ça. Et je pense qu'à l'heure où il est question de basculer, par exemple, on l'évoquait il y a quelques instants, sur des voitures 100% électriques, il va bien falloir la sortir de quelque part, toute cette énergie. Parce que ça va en demander beaucoup. Et que le nucléaire, jusqu'ici, c'est encore la manière... la plus sûre, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais en tout cas, la manière la plus fonctionnelle aujourd'hui d'assurer cet approvisionnement en électricité. Voilà. Après, effectivement, il y a d'autres façons, sans doute, de produire de l'énergie. Là aussi, d'ailleurs, on peut se responsabiliser, si on le peut, installer des panneaux solaires, par exemple. Bon nombre de concitoyennes et de concitoyens le font. Mais enfin, le nucléaire, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ça reste le meilleur moyen de produire de l'énergie.
Autre message qu'on écoute avec plaisir toujours sur pour ou contre. Vous voulez le numéro du message, Valérie, le 17.
Voilà.
Ça vous va le 17?
Allez, on prend celui-là.
Je ne vais pas être méchant, mais à un moment donné, on ne peut pas prôner la voiture électrique, le tout électrique, entre guillemets, la voiture électrique, trottinette, les smartphones, le télétravail, et puis penser qu'on va avoir de l'électricité sans problème, quoi. Quelque part, on a une surcharge de consommation électrique dans l'usage de tous les jours, donc à un moment donné, on devra trouver des solutions. Écologiquement, ben, c'est pas malin. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme autre solution. Encore, on va pas trop se plaindre. On n'a pas des mines de charbon chez nous, donc voilà quoi. Et puis je pense que le nucléaire, au jour d'aujourd'hui, il a bien évolué. Et puis peut-être que c'est moins risqué qu'il y a 30 ans ou 40 ans en arrière.
Alors, il n'y a pas eu de message disant « je suis pour le nucléaire », mais il y a eu beaucoup, beaucoup de messages qui allaient dans le sens de ce que ce monsieur vient de dire et de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Laurent Zibelmann, c'est-à-dire on n'a pas le choix, on ne peut pas. Voilà.
Pour l'heure, en tout cas.
En tout cas.
D'autres solutions se présenteront peut-être dans les années à venir, qui sait, mais pour l'instant, en tout cas, c'est un peu stand-by.
Et de toute façon, c'était mieux avant, point d'interrogation, 079-844-0077. Mais on n'a pas tout à fait fini cette émission, vous pouvez déjà nous envoyer des messages.
Vous d'abord. La parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Deux minutes aussi, c'est le temps d'un souvenir et d'un récap. Démonstration avec Jean-Marc Richard et donc notre invité, le rédacteur en chef du Matin Poissiège, Laurent Zibelmann.
Alors, Laurent Zibelmann, c'était mieux avant ou pas?
Bah écoutez, non, je suis pas passéiste en fait. Non, je pense que le bon temps c'est maintenant. Cela dit, on a connu, hein, n'est-ce pas Jean-Marc?
Oui.
Des choses charmantes et fantastiques, ouais. Il y a quelques années, bien sûr.
Mais
bien
vous
sûr.
Valérie, c'était mieux avant?
Non, mais c'était déjà. Ça, c'est pas voilà, mal. Voilà. Ça a été vécu, ça voilà, a fait de super souvenirs. Et donc, on peut profiter de la suite parce qu'on sait que ça existait.
C'est ça. Une personne à qui je ne peux pas poser la question, c'est Sarah Agelino parce qu'elle a 20 ans, puis c'était mieux avant, c'était juste hier. Oui.
Si ça se trouve, elle peut préférer son enfance aussi.
C'est ça. Je lui poserai la question lundi. C'est bien. C'était mieux avant, c'est le thème que nous vous proposons d'aborder pour la semaine prochaine. Pas. Toute la semaine, évidemment, mais lundi, et vous pouvez d'ores et déjà utiliser pendant tout le week-end notre répondeur automatique, notre WhatsApp, par un message vocal, par exemple, ou écrit au 079 844 0077. C'était bien aujourd'hui, Laurent Zibelmann. Merci beaucoup. Merci Valérie Ogier.
Merci Valérie, merci Jean-Marc pour votre accueil.
Bon week-end.
À lundi.
À lundi.
Vous d'abord, on vous donne la parole, on écoute, on partage et on vote.